Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, est votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Didier Guillaume.
Bonjour.
Êtes-vous réellement convaincu que le glyphosate utilisé dans les pesticides est un produit dangereux ?
Oui, c'est un produit dangereux. C'est pour ça que le gouvernement souhaite en sortir, et c'est pour ça que le président de la République a annoncé qu'il fallait quitter le glyphosate, sortir de la dépendance au glyphosate en 2021.
Pourtant, un rapport parlementaire sur le glyphosate est présenté aujourd'hui, et l'un de ses auteurs affirme qu'il n'existe aucune preuve que le glyphosate soit vraiment cancérigène.
Après, c'est le débat scientifique, c'est le débat du principe de précaution. Les agences indépendantes de santé ne sont pas toutes en ligne sur la dangerosité pour l'homme. Elles sont en ligne sur la dangerosité pour l'environnement. Dangereux pour l'environnement. Pour l'homme, on voit bien que ce qui se passe, on voit bien ce qui s'est passé avec M. François, qui a gagné son procès. L'agriculteur. Bon, on voit bien que c'est dangereux pour l'homme. Est-ce que c'est cancérigène sur les agences? N'en sont pas certaines, apparemment. Mais en tout cas, il faut sortir du glyphosate.
Alors, prenons l'OMS. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a classé le glyphosate parmi les produits probablement cancérigènes. Est-ce que ça suffit pour décider d'en interdire l'usage?
Oui, ça suffit. C'est le principe de précaution. À partir du moment où c'est probablement cancérigène, le gouvernement et moi-même sommes là pour défendre, pour protéger la sécurité, la santé de nos concitoyens.
L'OMS a classé la viande rouge dans la même catégorie que le glyphosate, le groupe 2A, celui des produits probablement cancérogènes. Faut-il prendre des mesures pour limiter la consommation de viande rouge?
Mais aujourd'hui, les gens limitent la consommation de viande rouge.
Est-ce qu'on les alerte suffisamment sur la dangerosité?
Oui, je le pense. Le salon de l'agriculture, c'était uniquement là-dessus. Les stands de la viande, c'était flexitarien. On mange de la viande comme on en veut. Enfin voilà, moi, je veux pas comparer la viande rouge et le glyphosate.
C'est dans la même catégorie.
Mais il y a plein de choses dans la même catégorie. Les cigarettes sont totalement cancérogènes, on ne les interdit pas. Donc la prohibition, ce n'est pas ça le sujet. Moi, je pense qu'il faut dire aux gens, simplement, que le principe de précaution doit s'appliquer et que le gouvernement décide d'arrêter d'interdire le glyphosate et que en ce qui concerne la viande, il faut manger de la viande, on mange de la viande comme on veut. Peut-être moins qu'on en mangeait à l'époque, mais bien sûr.
Toujours selon l'OMS, il y a pire que le glyphosate et la viande rouge, c'est la charcuterie. Là, on passe dans les catégories des produits dont le caractère cancérogène ne fait pas de doute. Alors, faut-il surtaxer le saucisson comme surtaxe les cigarettes?
Adressez-vous à un professeur de médecine ou pas à un politique. Si vous me parlez à moi... Si vous me parlez à moi...
D'alerter sur les dangerosités de la charcuterie, notamment.
Bien sûr, mais tout le monde sait qu'il ne faut pas n'importe quel médecin, surtout quand on a mon âge, quand on fait des prises de sang, on dit si vous mangez trop de charcuterie, le cholestérol, etc. Enfin, je ne veux pas rentrer dans cette aventure. Je crois que le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est de se dire que la France va être le premier pays au monde à sortir du glyphosate et le premier pays au monde à faire baisser sa dépendance aux produits phytosanitaires en 2025 de 50%. Premier pays au monde.
Didier Guillaume, la France a attendu 1997 pour interdire l'amiante alors que le Parlement européen dénonçait son caractère cancérigène depuis 1978. Est-ce qu'on ne risque pas le même genre de scandale sanitaire avec le glyphosate?
Ah mais là, nous faisons l'inverse. C'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que le Parlement européen...
On ne l'arrête pas immédiatement.
Le Parlement européen a remis 5 ans pour le glyphosate et nous disons non, 3 ans. Donc nous allons plus vite.
Et pas tout de suite.
Mais tout de suite, c'est impossible, parce que si on disait demain le glyphosate est interdit, on met dans l'impasse toute une partie de l'agriculture française... Qui n'a pas encore d'alternative. Et surtout, nous perdrions notre indépendance alimentaire. Donc il faut faire cette transition... Certes, il faut la faire rapidement, mais il faut permettre à l'agriculture de muter, l'agriculture est en train de muter.
En 2005, le Sénat a publié un rapport accablant contre les lobbies industriels qui ont retardé, par exemple, l'interdiction de l'amiante. Dans le cas du glyphosate, est-ce que le lobbying de Monsanto contribue à retarder son interdiction?
Je ne sais pas répondre à votre question. En tout cas, en ce qui concerne la France...
Il n'y a pas de pression en France.
Il n'y a pas de pression. Je ne vois pas qui mettrait des pressions. Nous décidons d'interdire le glyphosate, nous l'interdisons. Nous ne demandons pas l'avis à M. Monsanto, à M. Bayer ou à M. je ne sais pas trop qui.
Didier Guillaume, on a découvert que Monsanto fichait les opposants au glyphosate. Vous avez été classé dans la catégorie des détracteurs de ce produit.
Ouais, c'est une médaille. C'est une médaille que j'affiche à ma veste. Je suis assez content d'être détracteur de ce produit. Moi qui ai fait de mon département le premier département bio de France, je suis très content d'être détracteur de tous ces produits. Moi, ce qui m'importe, c'est la transition agroécologique. C'est pas des mots, c'est que l'agriculture se fasse le mieux possible. Pas comme on l'a fait ces 40 dernières années. Et en même temps, je ne jette pas la pierre à ceux à qui on a demandé, après la Seconde Guerre mondiale, de nourrir la France et de nourrir l'Europe.
L'agriculture intensive.
Oui, l'agriculture intensive. Et je veux quand même rappeler que notre alimentation, elle est saine, elle est sûre, elle est durable et elle n'empoisonne pas les gens.
Vous disiez, c'est un scandale ce fichage de Monsanto.
Oui, c'est un scandale, oui.
Vous le vivez comme ça?
Qu'est-ce que c'est? On vit en démocratie, on est fiché que c'est cette histoire. Donc, il y a les organismes dépendants du ministère de l'Agriculture qui portent plainte, comme l'INRA, d'autres le font. La justice fera son œuvre, on verra ce qui se passera.
Alors, en tant que détracteur de Monsanto, est-ce que ça vous a également réjoui d'apprendre que cette multinationale a été condamnée par la justice américaine et qu'elle va devoir verser 2 milliards de dollars à un couple atteint d'un cancer lié au glyphosate?
Mais ça ne m'a pas réjoui, 2 milliards de dollars, c'est même pas ce que ça veut dire. Non, ce qui m'importe, moi, c'est qu'aujourd'hui, la justice, lorsqu'il y a des maladies avérées d'agriculteurs, fasse son œuvre et condamne. Et j'ai rencontré dernièrement M. Paul François, céréalier en France, qui a mis une dizaine d'années de combat contre Monsanto, qui a gagné son procès, qui va être indemnisé. Et je crois que c'est très important, si des agriculteurs ont réellement la maladie professionnelle liée à ces produits-là, alors c'est normal que la justice fasse son œuvre et que Monsanto soit condamné.
Est-ce que vous souhaitez que le cas de cet agriculteur fasse jurisprudence en France?
Il fera de fait jurisprudence. Il faut d'abord
mais
voir
vous souhaitez,
si...
Mais
c'est, on ne peut pas souhaiter cela. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de nos agriculteurs qui aient des cancers ou qui soient malades.
Non, bien
évidemment.
Sûr, mais que ce soit davantage
évidemment,
reconnu.
Mais évidemment, ça sera reconnu. Ouais. D'ailleurs, la France va mettre en place un fonds phyto pour indemniser les agriculteurs victimes des maladies professionnelles. C'est très important. Là encore, ça sera unique. Les avancées que nous avons qu'à ce gouvernement pour interdire le glyphosate, pour arrêter la dépendance aux produits phytopharmaceutiques, pour faire en sorte de reconnaître les maladies professionnelles, c'est d'énormes avancées.
Didier Guillaume, il y a 15 jours dans la Drôme, vous avez dit que qu'à l'avenir, il faudrait revenir à l'agriculture telle que la pratiquaient nos grands-parents. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir produire moins pour protéger la nature?
Mais non, mais c'est pas du tout ce que c'est pas. Enfin, j'ai prononcé cette phrase, mais c'est dans un contexte, j'allais dire même un peu bucolique. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je roulais dans ma voiture étant jeune, il y avait excusez-moi d'être concret, mais des moustillons, des moustiques sur les pare-brises. Aujourd'hui, il y a plus rien. Aujourd'hui, il y a plus de haies. Aujourd'hui, il y a plus d'oiseaux qui nichent. Il y a plus de biodiversité. Il y a plus de vers de terre dans les champs. Je me rappelle qu'on allait à la pêche, on allait chercher nos vers de terre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est revenir à cela. Pour revenir à cela, c'est la transition agroécologique, c'est moins de pesticides, c'est refaire de la biodiversité, et c'est faire tout simplement de la rotation des sols. Moi, je ne veux plus voir l'hiver des grands champs labourés, enfin, je ne vais pas entrer dans la technique, mais il faut faire de l'assolement, de la rotation, des semis, des prairies permanentes. C'est ça l'agriculture à laquelle je veux revenir. Mais en même temps, il faut une agriculture qui soit innovante, compétitive, il faut de la recherche. Je ne veux pas revenir à l'agriculture avec mon cheval et tout cela. Non, il ne faut pas arrêter les caricatures. C'est pas vous, mais je sais qu'elle a été faite, cette caricature.
Elle a été faite par Laurent Alexandre, notamment, puisque vous pensez à lui, j'imagine. Merci beaucoup, merci Didier Guillaume.
Merci Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinée.